Vous écoutez, on lit pour vous.
Forcer les syndiqués à voter ferait chuter les grèves. Un texte de Francis Vaille, paru le 31 mars 2026 dans la presse. On s'entend. Personne n'a intérêt à voir des conflits de travail s'éterniser et se transformer en grève ou en lock-out. Ni les patrons, ni les syndiqués, ni les parties prenantes, qu'il s'agisse de clients ou de parents d'enfants à la garderie. L'idéal, c'est que les lois en place favorisent le règlement rapide des négociations. Poste Canada est l'exemple à ne pas suivre. Mais quels paramètres ont pour effet de réduire les arrêts de travail? Et quels changements feraient chuter les journées de travail perdues ultimement? Une équipe de 3 chercheurs de HEC Montréal a fait une analyse approfondie des raisons qui expliquent le nombre variable de jours de travail perdus dans les 10 provinces canadiennes depuis 1976. Et ils constatent que, depuis 48 ans, 3 variables ont eu un impact majeur, dont l'une est pratiquement absente au Québec. Le droit conféré aux employeurs de soumettre directement leur offre finale aux syndiqués en cas d'impasse avec le syndicat. Selon leurs recherches, une telle possibilité est offerte en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, entre autres. Et à long terme, elle explique la réduction de moitié des jours de travail perdus en raison de grève ou de lock-out, m'explique Jonathan Deslauriers, l'un des 3 auteurs de l'étude du Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal. Les chercheurs ont fait une analyse économétrique pour mesurer le lien entre les jours de travail perdus depuis 1976 et différentes caractéristiques des lois du travail. Ce droit d'imposer un vote ne fait évidemment pas l'affaire des syndicats. En revanche, 2 autres mesures favorables aux syndicats sont aussi clairement associées à une réduction des jours de travail perdus, soit les lois anti-briseurs de grève, d'une part, et le prélèvement à la source des cotisations syndicales, d'autre part. Les lois anti-briseurs de grève réduisent de quelque 60% les jours d'arrêt de travail, contre 50% pour l'exigence du vote. Ces 2 mesures modifient le rapport de force entre les patrons et les syndicats et obligent les parties à s'entendre plutôt qu'à éterniser un arrêt de travail. Hors Québec, l'exigence du vote imposée par l'employeur peut généralement n'être utilisée qu'une seule fois, si bien que l'employeur doit bien jouer ses cartes. En introduisant une possibilité de contournement du processus décisionnel syndical, ce mécanisme réduit la capacité du syndicat à prolonger indûment les négociations ou à déclencher un arrêt de travail, ce qui devrait diminuer l'incidence des conflits et, par conséquent, atténuer l'intensité globale des arrêts de travail, écrivent les auteurs. Au Québec, l'imposition d'un vote par l'employeur est aussi possible, en théorie, en vertu d'une disposition adoptée en 2002. Toutefois, il doit être autorisé par le tribunal administratif du travail et, selon la jurisprudence, il ne peut être utilisé que lors de situations exceptionnelles, donc très rarement. Dans les autres provinces, la tenue d'un vote est pratiquement toujours obligatoire lorsque l'employeur en fait la demande, selon les auteurs. Les régimes régis sous la réglementation fédérale n'ont pas fait l'objet de l'analyse des chercheurs. Toutefois, dans un conflit comme celui de Poste Canada, il apparaît qu'un droit de vote des syndiqués aurait pu être imposé, mais seulement avec l'intervention du ministre du Travail. Davantage de jours perdus au Québec. C'est connu. Le taux de syndicalisation au Québec est nettement plus élevé qu'ailleurs au Canada. Le nombre de jours de travail perdus est aussi plus important, mais la différence à cet égard est surtout attribuable au secteur public. Au Québec, la proportion d'employés du secteur public régi par une convention collective est passé de 80,1 % en 2000 à 84,7 % en 2024. Il s'agit du taux le plus élevé des provinces. Le taux en 2024 est par exemple de 71 % en Ontario et de 79 % en Colombie-Britannique. Dans le secteur privé, le taux est beaucoup plus bas, mais demeure plus élevé au Québec, soit 23 % contre 13 % en Ontario et 15 % en Colombie-Britannique en 2024. Les chiffres sont arrondis. Le nombre de jours de travail perdus dans le privé au Québec est un peu plus élevé qu'ailleurs, mais il est comparable lorsque ramené en proportion du nombre de syndiqués. Ainsi, pour 100 syndiqués, le Québec a eu 39 jours perdus en arrêt de travail annuellement entre 2015 et 2024 en moyenne. En Ontario, cette proportion est de 37 jours, contre près de 45 en Colombie-Britannique et 89 en Saskatchewan. En revanche, les jours de travail perdus dans le secteur public québécois ont été beaucoup plus importants qu'ailleurs entre 2015 et 2024. En moyenne, pour 100 syndiqués, les jours de travail perdus dans le secteur public se sont élevés à 45 par année au Québec en moyenne, contre 22 en Ontario et 4 en Colombie-Britannique. Selon les auteurs, la loi 14 adoptée au Québec à l'automne aura une portée limitée sur les jours de travail perdus. Cette loi, essentiellement, élargit le cadre des services essentiels et donne davantage de pouvoir au gouvernement en cas d'impasse dans les négociations. La réforme risque d'être appliquée avec retenue dans les conflits d'envergure en raison du coût politique associé à l'intervention de l'État. De surcroît, des pans entiers du secteur public échappent en tout ou en partie au nouveau régime, c'est le cas de l'ensemble de la fonction publique, tandis que d'autres sont déjà assujettis aux décisions du Tribunal administratif du travail dans le cadre du maintien des services essentiels, font valoir les auteurs. C'était « Forcer les syndiqués à voter ferait chuter les grèves », un texte de Francis Vaille, paru le 31 mars 2026 dans La Presse.
De la moitié des stations de métro de Montréal sont jugées vétustes. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 19 mars 2026 dans Le Devoir. Le réseau du métro de Montréal continue de se dégrader. Québec considère maintenant que plus de la moitié des stations du réseau souterrain sont en mauvais état. Le plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructure du gouvernement du Québec, PAGI, déposé mercredi, révèle que 51 % des stations de métro, soit 35 sur 68, obtiennent désormais les cotes D et E qui témoignent de la vétusté des infrastructures. En 2025, 31 stations du métro étaient considérées comme étant en mauvais état. La dégradation observée s'explique principalement par la détérioration d'éléments tels que des poutres, des dalles et d'autres composantes structurales critiques jugées en mauvais état à la suite du rapport réalisé en 2025 sur 5 stations de métro, soit Radisson, Verdun, Namur, de Castelnau et de la Savane, indique le document rendu public mercredi en marge du dépôt du budget du gouvernement de François Legault. Ces constats mettent en lumière l'importance d'intervenir rapidement pour assurer la fiabilité et la sécurité du réseau. On y souligne aussi que la STM a déployé plusieurs mesures visant à atténuer les risques, notamment par l'installation d'étaiements, structures temporaires de soutien, de grillages et d'autres dispositifs de protection afin d'assurer la sécurité des lieux. Lorsque les mesures de sécurisation s'avèrent impossibles, les lieux sont fermés au public. Mais en 2025, aucune station n'a été fermée, précise-t-on. Quant aux tunnels et aux autres structures auxiliaires, tels que les bâtiments de service qui abritent les équipements de ventilation ou d'alimentation électrique, ils ne se portent pas mieux. Une part de 38 % des tunnels est en mauvais état et 60 % des structures auxiliaires reçoivent la même note. Un grand nombre de structures auxiliaires du métro ont dépassé leur durée de vie utile, indique le PAGI. Un sommet de dégradation. Globalement, 46 % des actifs du métro, qui fête son 60e anniversaire cette année, sont classés en mauvais ou très mauvais état. Ce constat fait dire à la Société de transport de Montréal que la proportion des actifs en mauvais état du métro dépasse pour la première fois celle du réseau routier. Nous atteignons un nouveau sommet de dégradation de nos actifs. Les impacts de cette situation sont déjà tangibles. Hausse des pannes, fermeture d'infrastructures pour travaux d'urgence et pression croissante sur les coûts d'entretien, ce qui est vraiment préoccupant. On ne peut pas laisser l'infrastructure de transport la plus importante du Canada se détériorer de la sorte, a soutenu le président du conseil d'administration de la STM, Aref Salem, par voie de communiqué. La société de transport déplore d'ailleurs le statu quo du gouvernement quant aux sommes consacrées au maintien d'actifs, qui demeureront les mêmes pour les 5 prochaines années. Sur 10 ans, toutefois, la STM note une augmentation par rapport au plan québécois des infrastructures, PQI, précédent. Dans son mémoire pré-budgétaire, la STM réclamait l'atteinte d'investissements de 669 millions en 2030. L'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, insiste aussi sur l'importance des investissements dans le maintien des actifs. Il n'existe aucun raccourci. Sans investissement suffisant, le réseau se détériore avec des conséquences bien réelles, rappelle son directeur général, Benoît Gendron. Entente Québec-Ottawa. L'Association du transport urbain du Québec, qui représente les 10 sociétés de transport en commun québécois, regrette que le gouvernement du Québec n'ait toujours pas conclu d'entente avec Ottawa pour l'octroi du fonds fédéral destiné au transport collectif au pays. De son côté, l'Alliance Transit ne cache pas sa déception à la suite du dépôt du budget. Les sommes destinées à la bonification du transport collectif ont été réduites à 9,3 milliards pour les 10 prochaines années. Cette coupe s'explique toutefois en partie par le devancement d'investissements, dont 1,4 milliard pour le prolongement de la ligne bleue, souligne l'organisme. L'Alliance Transit note par ailleurs qu'une part de 73,6 % des investissements prévus en transport par Québec est réservée au réseau routier, ce qui représente le pire ratio depuis 2014, même si, dans le passé, Québec s'était engagé à atteindre un équilibre 50-50. C'était plus de la moitié des stations du métro de Montréal sont jugées vétustes. un texte de Jeanne Corriveau, paru le 19 mars 2026 dans Le Devoir.
Québec veut casser le réflexe médecin en santé et redorer le blason des CLSC. Un texte de Marie-Michèle Sioui, paru le 27 mars 2026 dans Le Devoir. Pour améliorer l'accès aux soins de première ligne, le gouvernement Legault veut casser le réflexe qu'ont les Québécois de se tourner vers un médecin quand ils ont un problème de santé, en misant davantage sur les soins de proximité. Dans la politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne qu'elle a dévoilée récemment, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, propose un retour vers les années 1970. À cette époque, les centres locaux de services communautaires, CLSC, ont été créés et devaient devenir la porte d'entrée du système. Comme l'a révélé Le Devoir, jeudi le 26 mars 2026, le gouvernement retourne à cette philosophie et veut désormais rattacher chaque Québécois à un territoire de CLSC pour qu'il reçoive des soins près de chez lui. Cette proposition assure à tous les Québécois, y compris ceux en situation de précarité ou d'itinérance, un point d'ancrage leur permettant de faire valoir leurs besoins et d'accéder aux soins et services nécessaires, affirme la politique de 95 pages, présenté devant près de 300 partenaires du réseau de la santé et des services sociaux. Les CLSC doivent devenir la plaque tournante de la première ligne, a déclaré la ministre Bélanger. Elle a dit avoir obtenu 10 millions de dollars pour que Santé Québec commence à concrétiser cette vision au cours de la prochaine année, par le biais d'un plan d'action. Pour rappel, Le Devoir a rapporté en janvier 2026 que Mme Bélanger reportait le déploiement d'un projet visant à faire des CLSC la porte d'entrée principale pour les services aux aînés. On renverse l'entonnoir. La ministre souhaite que, d'ici 5 ans, 150 CLSC puissent offrir 205 points de service aux Québécois. Ces derniers pourraient donc cogner à leur porte pour divers besoins, en santé mentale, en protection de la jeunesse, en itinérance, etc., ou encore se tourner vers un médecin lorsque cela est nécessaire. En clair, on renverse l'entonnoir, a résumé Maude Raymond, présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées, IPS, du Québec. Avant, c'était le médecin en premier. Et ensuite, on dispatche aux autres professionnels. Là, on parle de plusieurs portes d'entrée pour aller chercher le patient dans son milieu par l'intermédiaire de divers professionnels. Il faut briser l'idée que ça prend un médecin de famille pour tous. C'est ancré dans l'inconscient collectif et il faut déconstruire ça, a également déclaré Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières du Québec, qui a dit avoir longtemps attendu cette politique. Des critiques contre les GMF. La proposition du gouvernement critique à quelques reprises le modèle des inscriptions individuelles à un médecin, faites dans la grande majorité des cas, 83 % au sein de groupes de médecine de famille, GMF. Le budget de 6,7 millions alloués aux GMF lors de leur création en 2002 est passé à 324 millions de dollars en 2024. Or, ce modèle n'a pas réussi à combler les besoins de l'ensemble de la population québécoise. Les taux d'inscription individuelle ont atteint un sommet à 82 % en 2019 pour ensuite diminuer. La politique met en avant l'inscription collective favorisée par le gouvernement Legault. En cela, elle contredit un rapport d'experts sur la première ligne qui avait fait valoir en 2025 les vertus de l'inscription individuelle pour la continuité des soins et de la relation avec un professionnel de la santé. Elle fait également fi d'un avertissement récent du Collège des médecins qui juge que l'inscription collective d'un patient ne garantit pas en soi une prise en charge médicale ni un suivi réel. Le collège l'a d'ailleurs relevé dans sa réaction. Nous sommes très déçus que la politique ne prévoie pas une association spécifique entre le patient et un médecin ou une IPS, a écrit son président, le Dr Maurice Gaudreau. De nouveaux incitatifs financiers. En dépit de ces critiques au sujet des GMF, la politique ne propose pas de leur faire mettre la clé sous la porte, mais bien d'encourager un travail interdisciplinaire entre ces cabinets, souvent privés, et le reste du réseau. Le même document souligne cependant que le modèle dominant de paiement à l'acte s'avère souvent incompatible avec le renforcement de la collaboration interprofessionnelle. Il est donc suggéré, pour inciter les médecins à travailler de pair avec d'autres professionnels, d'avoir recours à des incitatifs financiers. La politique n'a pas non plus pour but d'encourager les médecins à aller travailler en CLSC, a dit la ministre Bélanger. Je ne pense pas que ça va changer l'orientation du lieu de pratique des médecins, a aussi affirmé le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le Dr Marc-André Amiot. Une politique saluée et décriée. Les grandes lignes de la politique ont pour la plupart été saluées par les diverses organisations en santé. C'est encourageant. Enfin, on parle de proximité, de vision d'ensemble, de responsabilité envers une population. Les CLSC sont présents partout au Québec et bien ancrés dans leur territoire. Ça, c'est positif, a notamment souligné la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Julie Bouchard. La directrice générale du regroupement provincial des comités des usagers, Sylvie Tremblay, a réclamé des actions concrètes. « Nous, ce qu'on veut, c'est que ça avance rapidement », a-t-elle lancé. À l'Assemblée nationale, les oppositions ont réservé un accueil plus sévère à la proposition. Beaucoup de principes, peu de garanties concrètes de résultats, a indiqué le député libéral Mansef Deradji, en critiquant notamment son manque de moyens, de cibles et d'échéanciers clairs. Après 8 ans à démanteler la proximité, à centraliser le réseau, à faire du mur à mur avec Santé Québec et à laisser la première ligne s'affaiblir, la CAQ découvre soudainement les CLSC, a ironisé Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire. Dans une critique similaire, le député péquiste Joël Arsenault a affirmé que la CAQ fait une volte-face complète en redécouvrant enfin l'existence des CLSC. C'était « Québec veut casser le réflexe médecin en santé et redorer le blason des CLSC ». Un texte de Marie-Michel Sioui, paru le 27 mars 2026 dans Le Devoir.
Pourquoi les gens ont autant de difficultés à dormir? Un texte commandité paru le 22 mars 2026 dans la presse. Les recommandations pour profiter d'une bonne nuit de sommeil, comme éviter les écrans et la caféine en soirée et installer des rideaux opaques, sont bien connues. Malgré tout, selon le rapport Mieux-être de Manuvie, 32% des Canadiens et des Canadiennes dormaient moins que les 7 heures recommandées en 2023. En 2025, mieux dormir était la priorité en matière d'habitude de vie chez 41% des gens au pays. On cherche souvent une solution rapide, mais se concentrer sur les habitudes de vie s'avère généralement plus important, observe le docteur Steve Pomedley, médecin traitant à Cleveland Clinic Canard. Voici 3 facteurs qui peuvent nuire au sommeil ainsi que quelques solutions à essayer. Mode de vie sédentaire. Plus de la moitié des adultes au Canada n'atteignent pas les 150 minutes hebdomadaires d'activité physique de modérée à intense que recommandent les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures. Bouger joue pourtant un rôle déterminant dans le sommeil de bonne qualité. L'activité physique agit sur les hormones, les neurotransmetteurs et la production de mélatonine, ce qui peut aider à s'endormir et à le demeurer, précise le docteur Pomedley. Recommandations. l'entraînement cardiovasculaire modéré, le renforcement musculaire et les pratiques corps-esprit, par exemple yoga et tai chi, peuvent tous favoriser le sommeil. L'activité physique de plus faible intensité, comme la marche, est également bénéfique. Le sommeil comme pilier du mieux-être. La recherche associe un sommeil de qualité et en quantité suffisante à plusieurs bienfaits. Moins d'inflammation et moins de risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Moins de risques de maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète et les problèmes de cholestérol. De meilleure santé cognitive, mémoire et énergie. Un meilleur système immunitaire tant pour les problèmes mineurs que pour les maladies graves. Stress et problèmes de santé mentale. De plus en plus de Canadiens font face à un stress accru et à des problèmes de santé mentale. Un rapport récent révèle que 35% des travailleurs canadiens se sentaient anxieux et 27% déprimés, ce qui peut nuire au sommeil. Ce phénomène fonctionne à double sens. Les adultes qui dorment moins de 6 heures par nuit sont 2,5 fois plus susceptibles de présenter des symptômes de problèmes de santé mentale. Une mauvaise nuit de sommeil peut rendre la gestion du stress plus difficile le lendemain, tandis qu'un niveau de stress élevé peut rendre le sommeil plus difficile, indique le docteur Pomedli. Recommandations. Notez vos sources d'inquiétude et des solutions possibles pendant la journée peut vous aider à décharger votre esprit pour la nuit. Un conseiller ou un thérapeute est aussi en mesure de vous aider à gérer des situations stressantes. Perturbation du rythme circadien. Le rythme circadien, l'horloge biologique du corps humain, régule plusieurs fonctions telles que l'éveil et le sommeil, l'appétit, la température corporelle et la production d'hormones. Son cycle de 24 heures s'apparente à celui de la Terre. Activité le jour, repos la nuit. Certains choix, comme faire de l'exercice en soirée, prendre un gros souper ou se coucher et se lever à des heures irrégulières, peuvent dérégler le rythme circadien et nuire au sommeil, un peu comme le fait le décalage horaire en voyage, illustre le docteur Pomedli. Recommandation. Essayez de vous lever à la même heure chaque jour. Maintenir des habitudes de sommeil régulières, même la fin de semaine, ou quand vous vous couchez plus tard, améliore la qualité et la constance du repos. Cherchez la lumière naturelle le matin et réduisez votre exposition à l'éclairage en soirée pour préparer votre corps au sommeil. C'était « Pourquoi les gens ont autant de difficultés à dormir ?» un texte commandité paru le 22 mars 2026 dans la presse.